Mesdames et messieurs, au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Je me présente Christine Bouchard, directrice de la programmation culturelle. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir M. Gilles Galichan, bibliothécaire et historien de l'Assemblée nationale du Québec. Cette conférence est présentée dans le cadre d'un partenariat avec la Société des 10 et de l'Amérique française. Les travaux de ses membres sont publiés dans les cahiers des 10 et font découvrir depuis 1936 divers aspects de la mémoire et du patrimoine de l'Amérique française. La conférence de M. Galichan intitulée « Québec en lutte pour son statut de capitale 1841-1865 » retrace l'histoire de la bataille de la ville de Québec qui a chaudement lutté sous l'Union entre 1840 et 1867 pour retrouver son statut de capitale de la province du Canada. Cette conférence s'inscrit dans l'ensemble des activités entourant les festivités du 400e anniversaire de la ville de Québec. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Galichan qui entend répondre à ces questions en abordant différents cas, en abordant toute la question. Une période évidemment de questions suivra la communication de notre invité. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
Merci beaucoup. Merci de votre accueil. En fait, je suis ici ce soir pour faire un petit peu un Saint-Jean-Baptiste de moi, pour vous annoncer deux publications à venir. D'abord, les cahiers des 10, on l'a évoqué tout à l'heure dans la présentation, qui vont paraître le numéro 61, le prochain numéro, dans un mois, d'ici un mois, et dans lequel vous aurez une brochette là, d'articles sur l'histoire de la ville de Québec. Ça s'impose, évidemment, 4e centenaire, 400 ans d'histoire. Et au mois d'avril, une autre publication qui portera le titre de « Québec, 4 siècles d'une capitale » aux publications du Québec en collaboration avec l'Assemblée nationale qui fera un historique de la ville de Québec, mais justement sur son rôle de capitale de la fondation en 1608 jusqu'à aujourd'hui. Alors donc, ça va être une année faste pour les publications. Ce ne sont pas les seuls, évidemment. Il y en a d'autres qui seront au programme et ça permettra peut-être de découvrir certains aspects de l'histoire de la ville de Québec. Quand on pense un peu à la période de l'Union, ce n'est pas une période qui est très connue dans l'histoire du Québec ou du Canada. C'est un peu une période, un peu, j'appelle ça un petit peu, une sorte de Moyen Âge, un peu de notre historiographie. Souvent, on connaît bien l'histoire, bon, de l'époque du Bas-Canada, l'histoire des patriotes et tout. On reprend pied un peu après l'histoire de la Confédération, donc le retour donc de la capitale à Québec. Mais la période de l'Union, c'est un petit peu complexe. On passe un peu vite là-dessus. On retient certains éléments, comme par exemple que c'est une époque de réforme. On sait que par exemple c'est l'époque de l'abolition du régime seigneurial. Ça a été l'époque aussi un peu héroïque de la reconquête des droits de la langue française avec Louis-Hippolyte Lafontaine. C'est aussi l'époque où on pense à le Code civil. Enfin, il y a eu des grandes réformes comme ça qui se sont ponctuées. C'est ce qu'on retient en général de la période de l'Union. Quelques grands moments comme ça importants de l'histoire, mais sans plus. On passe assez vite là-dessus. Puis même du côté des historiens, je suis pas certain que beaucoup d'historiens connaissent assez bien, assez à fond cette période de l'Union. On sait aussi que cette période-là, ça a été une période, au fond, où on a eu un débat assez poussé sur le siège du gouvernement. En général, quand on repense à ça, on regarde nos chronologies, par exemple, d'histoire, et puis on sait que 1800, d'ailleurs, ça a été souligné, il y a 150 ans récemment, que la reine Victoria avait décidé que ce serait Ottawa qui serait la capitale du Canada uni à l'époque, et que, bon, on continue les chronologies, puis 1867, avec l'Union fédérale, création de la Confédération, que Québec a retrouvé un statut de capitale pour la province de Québec à partir de 1867. Donc, c'est à peu près ce qu'on a l'impression que c'est dans les chronologies, c'est un peu fixé, ça a été définitif, ça l'a été d'ailleurs, mais on sait moins que cette période-là, ça a été drôlement disputé. Il y a eu vraiment des débats autour de ça, beaucoup de discussions, et que ce qui semblait être clair et net, ce qui était défini, ne l'était pas, en fait, à l'époque. Pour nous, ça l'est. On sait que ça a été, une fois pour toutes, ça a été les décisions qui ont été prises. Mais pour les gens de l'époque, tout pouvait basculer, tout pouvait être remis en question. Et c'est ce qu'on va essayer de voir un peu ensemble, de voir un peu comment cette histoire-là s'est organisée. Et c'est cette cette histoire, ce débat de la capitale qui se déroule entre 1840 et 1860, dans les années 1860 jusqu'à la Confédération, en fait, a laissé à Québec des blessures assez profondes, des éléments là, qui, pendant longtemps, vont mettre du temps à se cicatriser, disons, sur l'amour-propre de la ville, sur le rôle des notables et sur, je dirais, le rayonnement aussi de la ville. Parce que cette période-là, qui est une époque un peu, vous allez me dire peut-être que j'aurais dû choisir quelque chose de plus glorieux comme période, mais ça correspond en fait à une période de déclin de la ville. Quand on fait les commémorations, des fois on aime bien souligner les belles pages, les pages les plus enluminées de l'histoire, mais il y a aussi des pages moins brillantes, et celle que je vais vous raconter ce soir en est une des moins brillantes, mais quand même intéressante. D'abord, on va regarder un petit peu le portrait un petit peu de la situation. Vous avez la carte du Haut et du Bas-Canada avec les villes un peu, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais simplement pour vous rafraîchir un peu la mémoire, voir un peu la situation des villes. Alors, vous voyez Québec, Montréal, Ottawa, Kingston, Toronto, ça va être les villes qui vont être essentiellement les villes en lice ou au litige sur cette question de la capitale. Alors d'abord, comment ça se pose avec la question de l'Union? Alors, 1840, vous savez qu'après les rébellions, on fusionne le Haut et le Bas-Canada. Il faut donc trouver un lieu où on va se réunir, parce que s'il y a un seul parlement pour le Haut et le Bas-Canada, il faut donc trouver un siège, un endroit, une ville où il faudra se réunir. La question, dans la Constitution de 1840, on n'en parle pas de ça. On spécifie pas de ville où ça doit se faire, mais il devra donc y avoir un choix. Comme la question de la capitale, c'est une question qui relève de la couronne, on dit au gouverneur, ben c'est vous le gouverneur qui déciderez ou vous déciderez de convoquer le Parlement puis d'installer le siège du gouvernement. Alors, le gouverneur, à ce moment-là, il s'appelle Charles Poulette. Je m'excuse, il s'appelait comme ça, Charles Poulette Thompson. Il va devenir Lord Sydenham. Alors, on le connaît mieux sous le nom de Lord Sydenham. Et il va donc arriver. C'est donc lui qui va devoir choisir la capitale. Et il va décider de Kingston. Mais pourquoi Kingston? C'est que, vous savez, le choix, au départ... Bon, le Bas-Canada a été vraiment décapité après la rébellion. Il n'y a plus de parlement après 1838. Il y a un conseil spécial qui est nommé puis qui est un petit peu dans la main du gouverneur. C'est le gouvernement qui a nommé les membres du conseil spécial. Donc, ça va aller facilement. Puis on va faire accepter l'union très facilement par ce conseil spécial très docile et très soumis au gouverneur. Du côté du Haut-Canada, le parlement n'est pas aboli. Il reste toujours un parlement à Toronto qui continue à siéger jusqu'en 1840-41. Et qui lui pose des conditions. Ils sont pas prêts, les gens, surtout qu'il y a beaucoup de conservateurs là-bas, ce qu'on appelle le Family Compact, là, et ces gens-là sont pas prêts du tout à partager l'Union, à partager une province réunie avec le Haut et le Bas-Canada. Ils sont pas très chauds là-dessus. Alors, ils vont poser leurs conditions pour accepter, finalement, ce principe de l'Union. Ils vont dire au gouverneur, on va accepter d'entrer dans cette Union du Haut et du Bas-Canada à la condition que, puis vous connaissez peut-être ces conditions-là parce qu'elles ont pas été très à l'avantage du Bas-Canada, à savoir qu'il y avait représentation égale, le même nombre de députés dans le Haut et le Bas-Canada, même si la population du Bas-Canada était beaucoup supérieure, de 150 000 à l'époque, 450, je crois, et 600 000, si je me souviens bien des chiffres, entre le Haut et le Bas-Canada. Donc, même si la population est plus basse dans le Haut-Canada, ils vont avoir le même nombre de députés. On va également fusionner les dettes publiques. Autrement dit, le Bas-Canada va payer la dette publique du Haut-Canada. Il va y avoir l'abolition du statut de la langue française, qui avait quand même été acquis depuis très longtemps de haute lutte. Alors, voyez-vous, le Haut-Canada a posé ses conditions comme ça, et comme le gouverneur ne voulait surtout pas que l'Union achoppe à cause d'un refus du Haut-Canada d'entériner la Constitution, on va accepter toutes les conditions qui étaient demandées au Parlement de Toronto. Et une de ces conditions-là a été aussi que la future capitale serait sur le territoire du Haut-Canada. Donc, on allait déserter le Bas-Canada. Alors, le gouverneur disait, oui, inquiétez-vous pas, c'est ce que vous allez l'avoir. Mais c'était pas nécessairement Toronto qui serait choisi. Alors, l'idée du gouverneur, qui va finir par se décider, il va mettre du temps un peu, il va réfléchir, il va dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et il va choisir Kingston, puis vous voyez un petit peu où se trouve Kingston. Donc, côté est du lac Ontario, c'est dans le Haut-Canada. C'est l'ancien Cataraqui des Amérindiens que les Français avaient fondé sous le nom de Fort Frontenac. C'est la source du Saint-Laurent. Bon, il y avait un petit peu une petite connotation un peu historique avec ça. Et c'est surtout plus près de la frontière du Bas-Canada que Toronto. Donc, c'était un peu pour accommoder, si je veux dire, les députés du Bas-Canada qui devaient aller siéger à Kingston. Alors, c'est là qu'on va s'installer. Et quand on dit à l'époque de l'Union, la capitale était itinérante et alternative, c'est vrai, mais faut se dire qu'en 1840-41, plutôt, quand le gouverneur décide que ce sera Kingston la capitale, dans son esprit, c'est un choix définitif. On s'en va pas à Kingston pour quelques années, c'est ce qui va arriver, mais dans son esprit, ce sera la capitale définitive du Canada ou de la province du Canada, comme on l'appelle désormais. Et puis, comme c'est une toute petite ville, Kingston, hein, il y a 5 ou 6 000 habitants, et il n'y a pas grand-chose, donc il va falloir bâtir éventuellement, il va falloir s'installer là. Et les deux capitales vont, les deux anciennes capitales, Toronto et Québec, vont donc voir migrer leur petite fonction publique, qui est pas énorme quand même à l'époque, mais c'est bon, peut-être une centaine de personnes des deux dans chaque capitale, qui vont migrer donc vers Kingston. Il va y avoir les députés, les conseillers législatifs qui vont se retrouver là. Alors, du côté de Québec, c'est déjà très durement ressenti, d'abord le fait que la capitale était, entre guillemets, exilée dans le Haut-Canada, et le fait aussi que Québec voyait partir, premièrement, pas une grosse partie de sa population, mais quand même des gens instruits, des notables, des gens quand même qui faisaient partie de l'élite, on peut dire, de la société, qui s'en allaient, qui allaient s'installer à Kingston, et qui donc, on voyait aussi partir la bibliothèque, on voyait partir du Parlement, on voyait partir des éléments comme ça, à tel point que Étienne Parent, dans Le Canadien, va parler d'un pillage de la ville de Québec, comme ça, qui s'en allait, qui s'égrenait, quand on sait aussi les conditions de transport de l'époque, c'était pas évident. Il y a aussi des gens qui vont regretter le départ de Québec, et c'est pas seulement que les francophones ou les Canadiens ou les patriotes de l'époque, c'est aussi les anglophones, parce que les anglophones de Québec, la classe marchande de Québec, ils vont réaliser avec le départ de la capitale que c'était pratique d'avoir le gouverneur à portée de la main, enfin le gouverneur, les députés, les conseillers législatifs, les fonctionnaires. Alors on pouvait régler des tas de choses avec cette proximité du pouvoir politique. Alors la classe marchande de Québec, qui avait son journal qui était depuis le début du siècle, qui s'appelait le Quebec Mercury, qui était l'organe, la voix des marchands de Québec, va se trouver à prendre tout d'un coup parti pour Québec en disant, ben c'est donc dommage qu'on ait perdu le statut de capitale parce que c'était bien intéressant pour la ville aussi d'avoir ça. Alors vous allez voir comme ça, non seulement des francophones mais aussi des anglophones prendre le relais ou la défense de Québec pour dire, bon ben c'est quand même peut-être pas la meilleure chose qui soit arrivée dans le cadre de l'Union que cette perte de la capitale. Et donc, Kingston l'a choisi, on s'installe en 1841, mais ça fera pas longtemps parce qu'on va se rendre compte que Kingston n'est pas à la hauteur de son rôle de capitale. D'abord, il y a une inflation absolument folle. Vous avez une petite ville comme ça qui voit arriver, pas des milliers de personnes, mais quand même des centaines de personnes qui arrivent d'un seul coup. Alors, ils veulent se loger. Alors, il y a une inflation. Les restaurants, enfin, les auberges, les endroits où on pouvait manger, ben les prix se mettent à flamber hein, parce qu'il manque de ressources, il manque de logements, se louer une maison, se louer un appartement, c'est absolument démentiel. Alors, il y a une espèce d'inflation comme ça qui grandit. Je vais vous montrer. Ah oui, je voulais vous montrer un petit peu Québec à l'époque de 1840. C'est l'époque dont on parle. Alors, c'est un peu le portrait de Québec à cette époque-là. Une gravure, on voit un peu l'activité du port. Bon, une ville quand même qui est à cette époque-là encore assez dynamique, assez forte au plan économique et qui va commencer à décliner aussi avec ce départ de la capitale en 1800. On voit d'ailleurs que ce qui domine un peu, c'est l'aspect militaire. Hein. Vous voyez la citadelle qui est quand même l'élément encore, le clé de la... Et puis, on voit légèrement, mais enfin, si vous voyez, il y a comme 3 clochers sur votre droite. Là, la partie centrale qui est comme un peu une coupole, c'est l'ancien édifice du Parlement du Bas-Canada qui se trouve à être déserté à partir de 1840. Mais il y a donc ces bâtiments-là, on y reviendra tout à l'heure, qui vont servir de futur parlement lorsque la capitale y reviendra. Alors, à Kingston, on s'installe dans ce bâtiment. C'est le seul bâtiment public assez grand pour pouvoir accueillir le parlement. C'est l'hôpital général de Kingston. Il existe encore, d'ailleurs, si jamais vous allez faire un petit tour du côté de Kingston, vous pouvez retrouver ce bâtiment-là qui est maintenant, enfin, englobé dans un complexe beaucoup plus vaste, mais ce bâtiment-là se trouve toujours là. Je vous parlais des problèmes d'accueil, en fait, d'infrastructures, disons, que la ville pouvait offrir. C'est que, en plus de tous ces problèmes-là, il y a aussi la question de la santé publique, parce que la ville de Kingston avait un problème d'eau potable. Alors, pas-t-il qu'il y avait du calcaire dans l'eau? En tout cas, ça rendait tout le monde malade. Alors, c'est pour ça que les députés disaient à la blague que c'était un peu normal qu'on ait installé le Parlement dans un hôpital, puisque tout le monde tombait malade aussitôt qu'il s'installait, aussitôt qu'il commençait à séjourner quelque temps à Kingston. Mais ça aussi, c'était en fait un problème d'avoir justement des bâtiments suffisants pour accueillir. Alors, les plaintes s'accumulent. Le gouverneur, celui qui avait choisi Kingston, va mourir rapidement. Il va avoir un successeur. Bon, il va avoir Bagot, après ça, Metcalfe. Et c'est à la suite des plaintes de tous les députés systématiquement, là, puis pas seulement que ceux du Bas-Canada, du Haut-Canada aussi, qui se plaignaient de la ville. Alors, il va falloir trouver une autre capitale, parce que là, on dit... Et en plus, il y a un autre argument que les gens soulevaient contre Kingston, c'était la proximité. Je reviens rapidement en arrière. Voyez la proximité de la frontière américaine. Bon, aujourd'hui, on ne parle plus de guerre possible entre le Canada et les États-Unis, mais à l'époque, il y avait eu la guerre de 1812. On se disait qu'il pourrait peut-être avoir encore une attaque des États-Unis sur le Canada. Et Kingston, qui serait la capitale, est vraiment là, mais à quelques kilomètres à peine de la frontière américaine. Donc ça, c'était un autre argument qui faisait réfléchir à savoir si on devait continuer à s'installer du côté de Kingston. Et si on abandonne Kingston, ben est-ce qu'on pourrait pas revenir à Québec, par exemple? Et là, à Québec, bon, je vous parlais des marchands qui faisaient un peu le lobby pour le retour à Québec. Il va y avoir des gens qui vont se manifester et qui vont dire, oui, Québec pourrait revenir. Il y a notamment un avocat de Québec d'origine irlandaise qui s'appelait Dunbar Ross, qui va publier une petite brochure faisant état des qualités de Québec. Contrairement à Kingston, pour dire à quel point Québec est beaucoup plus une ville beaucoup plus avantageuse que Kingston pour recevoir la capitale pourrait revenir. Mais du côté du Haut-Canada, il va toujours avoir un blocage ou une réaction qui ça touche un nerf sensible. Où on va vouloir toujours remettre en question cette affaire-là. Mais le gouverneur doit trancher parce que là, les plaintes sont trop grandes et il faut prendre des décisions aussi parce qu'on avait loué ces bâtiments-là à Kingston. Il faut donc soit renouveler les baux ou bien construire en solide et puis de façon définitive avec des constructions plus permanentes. Alors là, il faut prendre des décisions pour pas engager des frais inutiles. Alors le gouverneur décide en 1843 qu'on va quitter Kingston et qu'on va s'installer à Montréal. Pourquoi Montréal? Ben, vous avez vu aussi la proximité, c'est un peu aussi, je reviens toujours sur ma petite carte, tiens. Alors, voyez-vous, Montréal, le côté central, on avait pris Kingston pour se rapprocher un peu de la frontière du Haut-Canada. On va prendre Montréal parce que c'est pas très loin non plus de la frontière du Haut-Canada, donc pour les accommoder. Il va y avoir réaction aussi du Haut-Canada parce que les gens vont dire, bien, dans les conditions de l'Union, on avait dit que ça devrait être sur le territoire du Haut-Canada et là, on glisse vers le Bas-Canada, mais bon, le gouverneur, surtout que les plaintes sont tellement fortes sur Kingston qu'on va temporiser et on voit donc le gouverneur, puisque c'est une prérogative royale, le gouverneur va dire « ce sera Montréal ». Alors, à Montréal, on va s'installer aussi, mais quand même, Montréal, c'est une grande ville, une ville bilingue. Là, il n'y a pas de problème pour se loger, pour se nourrir. En fait, Montréal est tout à fait en mesure d'accueillir la capitale. À Québec, ça ne va pas mieux pendant ces années-là. C'est la... Voilà, je reviens un petit peu en arrière. Alors voilà, il y a des malheurs qui frappent Québec aussi pendant ces années. Vous savez, ces fameux grands incendies des quartiers de la basse ville de Québec, c'est cette gravure qui est inspirée des tableaux de Joseph Légaré où on voit brûler comme ça les quartiers Saint-Jean et Saint-Roch de Québec. Ils ont brûlé chacun à un mois d'intervalle. Alors ça a été des coups très, très durs pour Québec. Donc, il continue un peu son déclin. L'économie va plutôt mal. Ce genre de malheur aussi qui coûte cher à l'économie régionale. Il y a aussi les fameuses épidémies qui vont se mettre à frapper aussi, pas seulement Québec, bien sûr, mais tout le Canada, mais qui vont frapper en particulier Québec parce que c'est une ville portuaire et donc il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent à Québec et les maladies infectieuses font beaucoup de ravages aussi à Québec. Donc, Montréal, capitale. À Montréal, le Parlement, vous avez une séance ici du Parlement. Le Parlement s'installe au marché Sainte-Anne. Marché Sainte-Anne, vous voyez ce que c'est. C'est Montréal, c'est la partie ouest du Vieux-Montréal où est aujourd'hui la place Douville. Il y a le centre d'interprétation de la ville de Montréal qui se trouve là, je crois que c'est toujours là, je crois. Et donc, cet espace-là, c'est là que se trouvait ce bâtiment qui était le marché Sainte-Anne. Et c'est là que, temporairement aussi, parce qu'éventuellement, on pense aussi que ça sera une capitale permanente, Montréal. local. On ne pense pas non plus s'installer là de façon quelques années. On s'en va là pour définitivement. Et en attendant la construction d'un parlement, ben on s'installe et vous avez ici une séance, une ouverture de session vers 1845 dans l'édifice du marché Sainte-Anne. Ça va très mal. Vous savez que les événements de 1849, je vais passer vite là-dessus parce que ça nous éloigne un petit peu du propos, mais vous savez que Montréal est soumis à des émeutes en 1849 pour des raisons économiques, mais ce qui a été le déclencheur, le détonateur de ces émeutes-là, c'est le fameux Bill des indemnités qui compensait les victimes des répressions militaires, des rébellions de 1837-38 dans le Bas-Canada. Enfin, si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous me poserez des questions à la fin, mais Montréal a été soumis au printemps 1849 vraiment à des émeutes très graves de la part des conservateurs qu'on appelait les Tories anglophones de Montréal qui se sont rebellés notamment contre cette loi des indemnités, mais aussi contre toutes les politiques économiques de la Grande-Bretagne. Et ça a très mal tourné. Ils ont envahi le Parlement, ils ont mis le feu. D'ailleurs, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de victimes parce que les députés ont dû quitter. Il y en a qui sont sortis par les fenêtres. Ça a été vraiment ça aurait pu être une hécatombe, cet incendie criminel du Parlement. Et vous savez que les archives, la bibliothèque, enfin, il y a eu des pertes considérables au moment de cet incendie de 1849. Encore là, une espèce d'effet d'épouvante, je dirais, sur la classe politique. Les gens sont paniqués. Enfin, les députés, ils ont vécu quelque chose quand même d'assez dramatique. Et quand on dit les événements d'avril, ça se passe le 25 avril, cet incendie, ça s'est pas arrêté là. C'est que pendant tout l'été, Montréal a été la proie là, de bandes. La maison de Louis-Polyte Lafontaine a été saccagé. Il y a eu en fait plein d'événements comme ça qui ont fait que Montréal était sous un climat là, de terreur finalement. Alors les députés, quand même, la session s'est continuée, non plus au marché évidemment qui avait été détruit, au marché de l'Ouest, Sainte-Anne. On est allé au marché Bon-Secours, que vous connaissez bien. Alors dans une grande salle du marché Bon-Secours, c'est là qu'on a continué à siéger, mais avec protection militaire, avec la protection de l'armée. Il y en a plusieurs qui là prennent la parole, ils disent bon ben écoutez, on peut pas continuer à siéger dans des conditions comme ça. Il faut remettre en question encore là la possibilité de Montréal, la capacité de Montréal d'accueillir un parlement puis de laisser siéger dans des conditions civilisées, normales. Et là, on pense encore là à retourner possiblement à Québec. Il y a un député de la région de Québec qui se lève, Marc Laterrière, qui dit, bon, ben on pourrait très bien retourner à Québec. Il y a le Parlement est là. On pourrait très bien, en quelques jours d'ailleurs, aller s'installer puis continuer la session à Québec. Mais encore là, bon, tout le monde n'est pas d'accord. Lorsqu'il en fait une motion, elle va être battue. Et c'est à ce moment-là seulement qu'en 49 qu'on va décider que la capitale de l'Union, ça va être une capitale d'alternance. On va d'abord siéger dans une ville et on va reprendre les deux anciennes capitales parce qu'il s'agissait pas de trancher. On voulait pas que ce soit ni Québec ni Toronto. On va donc aller siéger en alternance à Toronto, à Québec, à Toronto, à Québec, à tous les quatre ans. Et au départ, parce que là, il s'agissait de savoir quelle serait la première des deux villes qui aurait la palme, et le gouverneur, qui s'appelait Elgin à ce moment-là, va décider que ça va être Toronto d'abord pour terminer la législature. Il restait 2 ans seulement. On va dire, on va aller siéger 2 ans à Toronto. Et par la suite, à tous les 4 ans, on va se promener comme ça de, bon. Lorsque Londres est informé, parce qu'évidemment, à Londres, le Colonial Office, hein, le ministère est informé, évidemment, de tout ce qui se passe dans la colonie. Lorsqu'on apprend cette décision-là, on se dit, ben, c'est peut-être pas idéal, hein, quand même, tous les 4 ans, comme ça, déménager, c'est quand même, bon, les autres villes, comme je vous dis, ça a pas duré, Kingston, Montréal, mais pour des raisons, au départ, on devait être de façon permanente dans ces villes-là. Commencer à se promener comme ça tous les 4 ans, on dit ça va coûter cher, ça va être compliqué, il va certainement, bon. Mais bon, puisque c'est ça qui semble convenir à tout le monde et que les députés sont en faveur de ce genre de convention-là, donc on décide que ce sera Toronto d'abord 2 ans, puis ensuite Québec. Alors donc on va donc quitter Montréal et s'installer à Toronto et se déplacer comme ça à tous les à tous les 4 ans. En 52, lorsque vient le temps donc de déménager, il y a une petite cabale à Toronto pour dire, écoutez, ça n'a pas de sens. Voyez à quel point, là, ça fait seulement que 2 ans pour y rester au moins 4 ans. On voudrait garder la capitale à Toronto, mais le gouverneur insiste en disant, écoutez, c'était ce qu'on avait convenu. On avait convenu qu'on irait à Québec et tout ça, donc ça sera Québec. Donc, de 52 à 55, 52, 53, 54, 55, donc pendant 4 années complètes, Québec va retrouver son statut de capitale. Montréal. Et ça correspond en fait à une période quand même assez, je dirais pas faste, mais au moins, je dirais d'accalmie, parce que je vous ai parlé des malheurs de Québec, les maladies, enfin les feux, enfin ça allait bien mal. Hein, c'est la capitale des malheurs, comme je disais, dans ces années-là. Alors, les années 50, donc, vont correspondre à quelque chose quand même d'un petit peu plus agréable, disons, comme situation. D'abord, le Parlement qui n'avait pas été complété. On avait commencé sous l'époque du Bas-Canada la construction du Parlement et on s'était arrêté au côté, juste le côté droit sur la gravure, là, n'avait pas été construit. Cet édifice-là se trouvait, ceux qui connaissent un petit peu Québec, dans la côte de la montagne. Alors, il y a un petit parc aujourd'hui à ce niveau-là, à peu près à mi-chemin entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. Donc, ça faisait face à la rue. Et on a construit cet édifice néoclassique. C'était Baillerger qui avait fait les plans. Et donc, un édifice quand même très, très convenable et très, très agréable. D'autant plus qu'en plus de compléter la construction en 1850-51, juste avant l'arrivée le retour du Parlement, on avait donc aussi restauré la partie déjà construite. On avait réaménagé, refait les boiseries. Enfin, c'était, paraît-il, magnifique. La décoration était absolument superbe, dit-on. Et on va faire également autre chose, c'est-à-dire que c'est l'époque, voyez-vous, la construction de... C'est la fondation de l'Université Laval. C'est aussi l'époque où on commence à voir... Ça se fera pas tout de suite, mais ça va arriver en 54. Le chemin de fer va arriver qui partait de la ligne de Montréal à Portland, va avoir un embranchement qui se rend jusqu'à Lévis. Il n'y a pas encore le pont, évidemment, qui amène les chemins de fer à Québec, mais déjà, Québec se relie un peu au réseau ferroviaire qui était quand même à ses débuts à ce moment-là. Donc, il y a comme un petit regain de vie. On construit également, parce qu'on a besoin d'infrastructures culturelles, ce qu'on serait l'équivalent d'un grand théâtre. Souvent, on appelle ça l'Académie de musique. C'était sur la rue Saint-Louis, une salle de 1200 place quand même, ça compte. Alors, c'était quand même, on dote Québec quand même d'éléments importants. Vous avez les premières expositions provinciales, comme on disait à l'époque, hein, pour le Canada, qui va avoir lieu dans la capitale, donc à Québec. Alors, ça draine un peu à Québec quand même une activité économique qui donne un air d'aller, je dirais, ou une espèce d'espoir à tous ceux qui, depuis déjà une dizaine d'années, disaient, bon, ben des gens comme Ross, je vous parlais de l'avocat Dunbar Ross, qui va faire une carrière politique aussi, dire, bon, ben effectivement, Québec a des qualités, des raisons d'être capitale, et ça y est, c'est reparti, au moins pour 4 ans, mais on va revivre quand même une petite période là qui est quand même assez intéressante. Et c'est l'époque aussi où les notables de Québec se mettent en quatre, je dirais, pour faire accepter Québec aussi aux Canadiens anglais, parce que la réaction est presque épidermique et viscérale du côté du Haut-Canada. L'idée que Québec soit leur capitale, à eux aussi, là, ça les hérisse. Alors, il s'agit, j'appelle ça moi, une opération de grande séduction, hein, c'est de se faire connaître et de montrer justement aux députés qui vont devoir venir siéger à Québec, à quel point Québec est agréable et tout ça, et surtout parce qu'on se rend compte que ces questions de la capitale, déjà, là, ça faisait 3 ou 4 villes là, qu'on expérimentait là, depuis l'Union, à quel point l'idée d'une capitale, c'est pas uniquement l'aspect, je dirais, administratif, dire, bon, le Parlement siège là, le gouverneur va habiter ici ou là, bon, et la fonction publique va suivre. Mais c'est aussi l'impact, je dirais, symbolique d'une capitale. Hein, si vous regardez ailleurs, dans plusieurs pays, Paris pour les Français, Londres pour les Britanniques, Rome pour les Italiens, c'est toujours des villes qui, même à des périodes troubles de leur histoire, ont symbolisé aussi quelque chose de très puissant. Il y a quelque chose, il y a une symbolique très puissante dans l'idée d'une capitale. Alors, c'est certain que Québec, pour les francophones, la première ville française, etc., ça jouait déjà. Surtout qu'en 1845, il y avait eu la parution du premier tome de l'histoire du Canada de François-Xavier Garneau. Alors, on commençait aussi à prendre conscience. Il y avait une conscience historique qui se développait avec cette idée aussi. Puis, on commence à faire de Québec aussi une ville de commémoration. On commence à élever des monuments, à mettre des plaques historiques, etc. Donc, cet aspect-là des origines est important. Mais ce qu'on dit aux anglophones, c'est que, écoutez, c'est significatif pour les Canadiens français, mais également pour vous autres, les anglophones, parce que Québec, c'est le symbole de la conquête. Hein, c'est là où ça s'est passé, la bataille des plaines d'Abraham. Alors, la grande victoire de l'Empire britannique qui a fait que le Canada, bon, est resté britannique et tout ça, ça s'est passé à Québec. Et Québec aussi, c'est une ville loyale. C'est la ville qui a résisté aux Américains en 1775. Vous vous rappelez la fameuse bataille lorsque les Américains ont attaqué le Canada? C'est les gens de Québec hein, qui ont résisté. Alors là, on se met à mousser ça puis à dire à quel point c'est fort Québec. Hein. Bon, c'est la place forte aussi. Bon, alors toutes ces qualités là, de défense de Québec, on les met de l'avant. Et puis à mon avis, ce qui est presque symbolique, je ne sais pas si c'est mon image suivante. Ah, ça, c'est le feu, je vais y revenir tout à l'heure. c'est ce monument, le monument des Braves, que vous connaissez peut-être, qui est sur le chemin des chemin Sainte-Foy. Il y a eu autrefois un téléroman, il y en a peut-être qui se souviennent, le Parc des Braves, là, qui était qui se passait dans ce quartier-là, le quartier ouest de la ville, qui rappelle en fait la bataille de Sainte-Foy, 1760. Hein? Bon, alors, je vous résume rapidement, mais ce monument-là, il a été construit, en fait, il a été terminé dans les vers 1860, mais il a été commencé son installation en 1853-54, les années, justement, où on était revenu, Québec était redevenu une capitale. Et vous savez un peu l'histoire de ça, rapidement, je vous raconte ça, c'est qu'on avait trouvé par hasard, en creusant pour une construction, une fosse commune où on avait retrouvé énormément de cadavres, fait des ossements, là, de soldats qui étaient morts sur le champ de bataille en 1760 et qu'on avait dû enterrer sommairement sur place et qui avaient été mis là. Alors, on a retrouvé, bon, des artefacts, soit des boutons, des médailles ou des choses comme ça. Alors, on a bien vu que c'était des militaires qui étaient enterrés là. Et là, quand on a vu la quantité de cadavres qu'il y avait d'enterrés dans cette fosse-là, on a compris que c'était des soldats de 1760 qui étaient morts sur le champ de bataille. Alors là, on s'est demandé qu'est-ce qu'on devait faire. Est-ce qu'on devait aller les enterrer dans un cimetière où il y avait d'ailleurs près de l'hôpital général, il y avait un cimetière où il y avait déjà des gens qui étaient morts, des soldats qui étaient morts pendant la première bataille des Plaines d'Abraham. Bon, est-ce qu'on allait les installer là? Et là, il y a eu un comité formé par la Société Saint-Jean-Baptiste en disant on pourrait peut-être élever un monument, installer les ossements enfin sur le site et ériger un monument à la bravoure. Et le premier dessin qui avait été fait, ça a été de faire un monument ou un mémorial à la défense nationale, à nos ancêtres qui ont défendu le pays contre l'invasion britannique. Mais là, on a dit, ça c'est délicat, hein, ça risque encore là de choquer. Alors, au contraire, on va faire de ce monument-là un monument à la bravoure militaire autant des Anglais que des Français qui sont morts sur le champ de bataille. Donc, de façon à ce que, justement, la capitale, on veut essayer que ce soit comme un creuset, justement, où on retrouve les souvenirs de l'un comme de l'autre. Hein, surtout pas plus un que l'autre, on veut tout mettre là. Comme je vous dis, c'est une grande séduction. Et en 1854, on va faire une apothéose, enfin une immense cérémonie, absolument 10 000 personnes, vous imaginez, à l'époque, là, sur un parcours avec un cérémonial. On a fait une grande cérémonie à la cathédrale, des drapés, on aimait beaucoup ça, les drapés dans ce temps-là, et puis tout ça. Alors, cérémonial et tout ça, Joseph Légaré va faire aussi un grand tableau d'histoire sur la bataille de Sainte-Foy. En tout cas, on va faire vraiment tout ça, puis en disant, et ça, le gouverneur trouve que c'est une très, très bonne idée, parce que justement, on rend hommage autant aux anglophones qu'aux francophones. C'est toujours l'idée aussi qu'on veut sauvegarder derrière ce discours bonententiste. On veut toujours sauver, je dirais, la notion du Canada français. Ce qu'on veut faire comprendre aussi aux conquérants, parce que derrière ça, c'est toujours à l'Angleterre qu'on s'adresse. On s'adresse aux Canadiens anglais ici, mais aussi, surtout même, aux conquérants britanniques, à la Grande-Bretagne. C'est de dire, vous savez, Lord Durham, là, quand il a proposé l'Union, puis l'Union qui avait pour but de faire disparaître le Canada français, c'était pas une bonne idée. Durham, il s'est trompé. Il a fait un mauvais calcul. C'est important pour l'Empire britannique de sauvegarder un Canada français. C'est le Canada français qui va être la pierre d'assise de l'Empire britannique en Amérique du Nord. Et justement, c'est comme ça qu'on rappelait que, par exemple, 1775, la fameuse bataille contre les Américains, de dire que c'est pas parce qu'une colonie ou des colonies sont anglophones que le loyalisme est nécessairement assuré. Et qu'au contraire, le Canada français, maintenant, là, c'est fini, les histoires de rébellion, on parlera plus de ça. Vous allez voir, on est très gentils, tout ça, puis on peut très bien, mais à la condition... Il faut que le Canada français survive pour permettre à l'Empire britannique de survivre. C'est un discours qui allie à la fois la survivance nationale et le loyalisme à la Grande-Bretagne. C'est comme ça, d'ailleurs, que vous avez peut-être déjà entendu ce fameux discours d'Étienne Pascal Taché, qui avait déclaré, c'est 1846, ce discours-là, que le dernier coup de canon tiré en Amérique serait tiré pour la défense de l'Empire britannique, serait tiré par un Canadien français. Bon, alors voyez-vous, cette belle formule-là, c'était pour rappeler aux Canadiens, aux Britanniques, que... l'intérêt même de l'Empire britannique, c'était la survivance d'un Canada français. Donc, il faut que la Grande-Bretagne, non pas écrase le Canada français, mais qu'elle lui permette de survivre. C'était la seule façon qu'on avait trouvée, finalement, d'assurer une espèce de pérennité ou de permanence au Canada français. Et là-dedans, l'idée de défendre Québec comme capitale, ben, s'inscrivait très bien, justement, l'exemple du Monument des Braves en étant, de dire, ben, voyez-vous, Québec, c'est le symbole à la fois de la survivance française, mais aussi du loyalisme à la Grande-Bretagne. Donc, on n'est pas dangereux, faites-nous confiance, puis on va vous permettre, justement, de maintenir votre gouvernement en Amérique du Nord. Je vais revenir sur mes illustrations, puis sur mes personnages. Bon, j'espère qu'il n'est pas bloqué sur lui. Voilà, alors on avait vu les feux, notre... voilà. Alors, ça on l'avait vu. Ça aussi. Alors, c'est ça. Ce qui va relancer la question de la capitale, vous avez l'incendie de 1854. 1854, ça recommence à mal aller, parce que le Parlement qui venait tout juste, qui était tout neuf, qui était tout beau, deux ans après, 1er février 1854, dans la nuit, le Parlement brûle. Et vous avez d'ailleurs une scène, je ne sais pas si vous pouvez voir à la droite, il y a des gens qui sont à la fenêtre de façon très dramatique, le feu semble sortir de partout, et elles jettent des choses par la fenêtre. Ce sont les livres de la bibliothèque qui étaient sauvegardés. Ils ont sauvé la moitié quand même de la bibliothèque lors de cet incendie, ce qui est quand même pas mal. Ce sont les élèves du séminaire de Québec qui étaient juste à côté, qui se sont précipités pour sauver ce qui pouvait être sauvé, mais enfin, il y a eu des pertes quand même très considérables. Ça a même été coup sur coup, parce que après cet incendie, l'incendie est en février, le Parlement devant se réunir en juin, on s'est installé, enfin, on prévoit s'installer dans un couvent de Québec qui est en construction à ce moment-là, près des glacis, et manque de peau, en fait, au mois de mai suivant, alors qu'on est en train de faire les aménagements pour installer le Parlement dans ce couvent, puis faire de la chapelle la salle d'assemblée, ben ça a brûlé aussi. Un autre incendie. Alors, il a fallu se rabattre en 54 sur l'Académie de musique, le fameux théâtre dont je vous parlais tout à l'heure, qui venait juste d'être construit aussi. Donc, pendant quelques années, les députés vont jouer leur rôle, effectivement, sur une scène de théâtre. ça a été bien indiqué. Et ça va se passer, donc, les sessions de 54 et de 55 vont se passer à l'Académie de musique. Mais cet incendie-là, il relance avec beaucoup plus d'acuité la fameuse question de la capitale itinérante, parce que là, le Parlement de Québec a passé au feu, va donc falloir reconstruire. Et puis, est-ce qu'on va reconstruire, quelque chose de bien que au fond de ce calibre-là comme édifice parlementaire, ou bien si on va, construire une boîte à savon? Et puis, parce qu'à Toronto aussi, on dit, c'est les vieux bâtiments du Haut-Canada dont on se sert encore. Tôt ou tard, il va falloir réaménager ça, ces bâtiments-là. Alors, faut y penser aussi. Alors, est-ce qu'on a les moyens de construire deux parlements puis de maintenir comme ça tout en double? Ça va coûter très, très cher. On peut penser à des sommes très considérables. Alors, cet incendie du Parlement va relancer avec beaucoup d'acuité la question de la capitale permanente. Alors, en 55, on en discute. C'est la dernière session qui a lieu à Québec. Vous savez, les quatre fameuses années là, qu'on doit passer à Québec. Et puis, on se penche sur la question. On n'ose pas trop trancher tout de suite. Et pour éviter les querelles, régionales, on décide qu'on va maintenir encore un temps, au moins jusqu'à l'année suivante, le principe de l'alternance. Donc, on remet pas en question l'idée qu'on retourne siéger à Toronto selon la convention établie de 4 ans. Donc, en 56, on retourne à Toronto, on déménage, on fait ce qui a à être sauvé de tous les feux qu'il y a eu, on ramasse tout ça, puis on retourne à Toronto. Mais là, à la session de 56, là, le débat commence à Toronto. Et là, il commence vraiment là sur des questions sérieuses. Parce que là, on se dit, là, ça a pas de bon sens. Et d'ailleurs, une des premières questions qui est réglée, c'est le principe même de l'alternance. On remet ça en question et les députés, avec une très forte majorité, là, après plusieurs débats, bien sûr, décident que ce sera aboli. On va donc mettre fin à cette question d'alternance. Mais là, ça règle pas la question. Où allons-nous aller siéger si on se décide pour une capitale permanente? Laquelle ce sera? Alors là, c'est là que les débats commencent. Et là, c'est les sections. Alors, il y a évidemment la question au Canada, bas Canada, mais même entre province, je dirais, entre sections de province, arrive la question, est-ce que ce sera Toronto, est-ce que ce sera Kingston? Parce que Kingston dit, écoutez, nous, ça a mal été les premières années, mais écoutez, là, maintenant, on est beaucoup mieux préparé. La ville s'est installée, l'eau est bonne, on serait pas malade et tout ça. Bon, alors, vous pourriez revenir à Kingston, on serait prêt, on a même construit, il y avait un bâtiment qui va servir d'hôtel de ville, mais qu'on avait construit en se disant, si jamais Kingston redevient capitale, on pourra toujours siéger là, ça va être mieux que l'hôpital, à tout le moins. Bon, Alors, Kingston se met sur les rangs. Montréal, parce que Montréal dit, écoutez, là, c'est vrai que 49, ça n'a pas été drôle, mais là, bon, tout le monde a compris, on s'est calmé. Montréal est tout à fait en mesure de réaccueillir de façon permanente. Montréal, c'est une grande ville, ville bilingue et tout ça, c'est tout à fait possible. Donc, Montréal se met sur les rangs aussi. Québec, évidemment, Québec est là. Il y a Dunbar Ross, là, mon ami qui avait écrit sa brochure, qui est maintenant député, va même ministre bientôt, qui va lui aussi, là, il réédite même sa brochure en 56 pour justement faire la promotion de Québec et tout ça, et dire que c'est Québec qui est la meilleure ville. Alors, ça se dispute vraiment à fond sur tous les plans. Puis il y a quelques-uns, des fois, qui lèvent la main puis qui disent, ben peut-être Bytown, vous savez, la petite ville de Bytown, là, Ottawa. Puis vous irez voir dans les documents d'époque, en fait, dans les des débats reconstitués de Mme Nish, c'est des éclats de rire. Habituellement, quand on parle de s'en aller à Ottawa, éclats de rire général, d'un bout à l'autre, parce qu'on se dit, bon, parce que Ottawa, bon, aujourd'hui, on sait Ottawa, c'est une grande ville et tout ça, accessible, mais à l'époque, Ottawa, c'est un tout petit poste forestier, là, très, très loin dans l'Outaouais. Alors, personne n'imagine, mais Ottawa est situé sur la frontière, hein, sur l'Outaouais. Alors, le côté centralité, tout ça, on met ça sur la table et puis on se dit, bon, ben Ottawa, peut-être. Mais lorsqu'on prend les votes, c'est presque ridicule. Là. Sur 100 votes, il y a peut-être 9 ou 10 votes qui vont à Ottawa. Fait, c'est pas sérieux. On considère pas Ottawa comme une sérieux. Mais lorsqu'en 56, on se met à décanter puis dire bon, on va prendre le vote ville par ville et puis on va voir quelle ville pourrait être choisie. C'est tellement braqué d'un côté ou de l'autre que on pense que personne va l'emporter. Et finalement, au mois d'avril 56, à la surprise générale, par 2 voix de majorité, Québec l'emporte. Par toutes sortes d'alliances qui se font, parce qu'à un moment donné, vous savez, chacun est sur son quant à soi, chacun prend, chaque région ou chaque district prend pour sa ville, mais c'est un peu comme dans les éliminatoires de hockey, hein, vous savez, quand votre club a perdu, ben des fois, on se rabat sur le club le plus proche, alors quand, par exemple, Montréal est battu par le vote parlementaire, ben finalement, les gens de Montréal votent pour Québec par défaut, bon, alors c'est comme ça qu'à la fin, lorsqu'on fait le décompte, à la surprise générale, personne ne s'attendait à ce que ce soit Québec, mais Québec gagne par 2 voix de majorité. Mais ça, c'est évidemment, ça fait pas automatiquement de Québec la capitale, parce qu'il va falloir que le gouverneur entérine ça. Et il va falloir aussi qu'on prenne des mesures pour reconstruire le Parlement incendié. Il va falloir donc qu'on vote des crédits pour bâtir aussi un nouveau Parlement. Donc là, il va y avoir un autre débat sur les sommes à accorder au Parlement. Alors, il y a un personnage qui va se lever contre cette possibilité-là. C'est ce monsieur-là qui s'appelle George Brown, qui est le fondateur et rédacteur du journal The Globe de Toronto, qui est absolument, mais farouchement, là, anti-Québec, hein. Alors, il va vraiment faire des pieds et des mains, si j'ose dire, et du reste, pour empêcher que cette idée, que ce vote en faveur de Québec se concrétise. Donc, il va faire sa campagne, je dirais sa croisade, dire le vrai, sur la question donc du crédit, parce que là, le gouvernement qui est dirigé à ce moment-là, vous savez, c'est des gouvernements bicéphales à l'époque. Hein, il y a toujours deux premiers ministres, si j'ose dire, deux chefs de gouvernement. Alors, c'est d'un côté M. McNab et de l'autre côté M. Taché, celui qui avait dit le dernier coup de canon se retirer, hein, Étienne Pascal Taché. Alors, donc, qui est chef du gouvernement pour le Bas-Canada et donc M. McNab, Alan McNab, pour le Haut-Canada. Et donc, Brown est dans l'opposition et fait vraiment une cabale contre les sommes qui devront être votées. Alors, on vote d'abord, là, il y a un budget spécial dès 56 pour construire, en fait, ce sera pas le budget total, mais 50 000 livres, c'est quand même considérable à l'époque, pour faire les plans, enfin, les plans d'architectes et tout, pour reconstruire le Parlement à Québec. Et ce 50 000 livres-là de budget fait l'objet, évidemment, d'une cabale absolument incroyable. Et là, le ton monte. Quand même, le gouvernement a sa majorité. Il va avoir une crise parlementaire, d'ailleurs, là-dessus, parce que le Bas-Canada vote massivement pour le crédit, mais le Haut-Canada vote massivement contre. Mais le total, quand même, c'est pas un contre l'autre. En fait, il y a quand même un peu plus de députés qui votent en faveur. Donc, c'est gagné. Le gouvernement se maintient, mais perd le Haut-Canada sur cette question-là. On voit que la cabale de M. Brown a marché. Enfin, l'opinion publique est vraiment, puis l'opinion parlementaire est vraiment braquée contre l'idée de retourner que Québec devienne la capitale permanente de l'Union. Et d'ailleurs, à l'occasion de cette crise-là, il y a quelqu'un qui tire très bien son épingle du jeu, qui est Johnny McDonald, qu'on connaît bien, qui est sur nos 10 $, qui va profiter de ce qui fait partie du gouvernement qui est ministre, qui va profiter de cette occasion-là, de cette crise-là, pour évincer son chef, qui est M. McNab, et prendre sa place. Alors, il va y avoir une petite crise ministérielle en 1856 qui renverse pas vraiment le gouvernement, mais qui renverse, en fait, la portion haut-canadienne du Parlement et qui permet à M. McDonald de se faufiler et de... Enfin, ça arrivait dans le temps. Je suis pas sûr que ça arrivera encore aujourd'hui, des choses comme ça, mais quoique... un ministre qui renverse son chef. Alors, M. McNab est retiré et désormais, on va avoir un gouvernement, donc, taché McDonald. Le budget est voté par la peau des dents, mais le conseil législatif, parce qu'à ce moment-là, il y avait un conseil législatif, lui va être encore sensible à l'opinion publique, d'autant plus qu'à ce moment-là, le conseil législatif va devenir possiblement, il va le devenir d'ailleurs électif, mais le conseil législatif, qui est beaucoup plus conservateur, va pencher du côté finalement de la cabale de Brown et le budget qui avait été voté à la Chambre basse va être bloqué à la Chambre haute, au Sénat, si vous voulez, au conseil législatif. Donc, à la fin de 56, on se retrouve encore gros gens comme devant, avec un vote qui a été prononcé en faveur de Québec, un vote parlementaire, mais très serré, hein, deux votes majorité. Un vote à la Chambre basse pour les crédits de reconstruction du Parlement, mais à l'arraché, et renversé à la Chambre haute. Alors, vous voyez qu'on se retrouve là, dans une situation là, d'impasse à la fin de 1856. Alors, ce qui fait qu'on se dit, bon, ça va encore rebondir en 1800 à la session suivante, c'est ce qui se passe, 1857, encore des débats. Puis encore là, je suis sûr que les arguments volaient pas haut. Hein, c'est vraiment, on attaque d'une ville à l'autre, on s'attaque, mais de façon assez pitoyable. Alors, le gouvernement, bon, il se retrouve avec une patate chaude sur cette question-là, on sait pas quoi faire. Alors, c'est de là que vient l'idée que si on peut pas régler la question au Canada, ben on va soumettre ça à Sa Majesté à Londres. C'est la reine Victoria, qui tranchera. Hein, on dépose le problème au pied du trône, comme on disait. Alors, c'est comme ça que le gouvernement dit, bon, ben les villes qui sont intéressées à faire valoir leur point de vue, vous pouvez soumettre un mémoire qui sera déposé à Londres et qui fera valoir vos questions. La reine, elle est neutre et c'est la reine qui décidera quelle sera la capitale permanente de l'Union du Canada, des deux Canada. Il y en a d'ailleurs qui sont tout à fait hostiles à cette hypothèse-là, parce qu'on dit, bon, ben ça prouve encore que le Canada, qui vient à peine d'avoir son gouvernement responsable en 1858, est encore vraiment une colonie, puisqu'on n'est pas capable de régler nos problèmes nous-mêmes. Il n'y avait aucune raison de soumettre cette question-là. Enfin, il n'y a aucune obligation constitutionnelle que cette question-là soit pas réglée au Canada. Pourquoi est-ce qu'il faut encore aller à Londres? Alors, vous voyez, il y en a qui sont pas tout à fait d'accord avec cette idée-là. Mais les villes sont quand même appelées. Donc, alors Québec se dit, bon, ben écoutez, nous, on a quand même de bonnes raisons de prétendre à ce statut de capitale. Donc, on va faire le travail. On nous dit de soumettre un mémoire. On va le faire. Alors, le maire de Québec, qui est ce monsieur qui s'appelait Joseph Morin, qui était médecin, convoque une assemblée publique de citoyens en disant, ben écoutez, on a peut-être une occasion de soumettre la candidature sérieusement de Québec. Bon, alors on a besoin de votre aide, de tout le monde. On va former un comité et on va donc demander, bon, de former, en fait, faire vraiment un dossier très solide. On n'est pas les seuls, les autres vont le faire aussi, mais si on a de bons arguments, si le jeu est franc, on va peut-être gagner emporter le morceau. Alors, les arguments, encore là, ça joue dans le mode de la grande séduction dont je vous parlais tout à l'heure. On fait appel à l'histoire, on fait appel à la géographie, hein, parce que on dit, bon, ben c'est vrai que les autres villes prétendent beaucoup à la centralité, hein, bon, Montréal, Kingston, bon, on dit toujours c'est très central, mais on commence déjà à parler d'une possible union fédérale avec les provinces maritimes. On se dit, ben à ce moment-là, la centralité, elle serait beaucoup plus à Québec, ce serait beaucoup plus commode de communiquer des maritimes vers Québec que si c'est à Toronto ou si c'est à Kingston ou à Montréal. Alors donc, la centralité, elle peut finir par jouer aussi. Puis même même si ça ne se réalise pas, cette union fédérale, on se dit, bien regardez, il y a des tas de pays qui n'ont pas nécessairement, qui sont pas nécessairement, la capitale n'est pas au centre géographique du territoire. Même Paris, même Londres sont pas au centre géographique du pays. Puis on souligne parfois l'exemple de Saint-Pétersbourg, qui est une capitale que les tsars avaient installée sur la Baltique. On avait préféré même à Moscou, qui était bien centrale, mais on l'a préféré préféré sur le bord de la mer à cause de l'ouverture sur justement l'ouverture portuaire. Alors on se dit, ben Québec, c'est un peu la même chose. Le Canada peut très bien avoir une capitale qui donne sur l'estuaire du Saint-Laurent. Ça va bon. Alors donc ces éléments géographiques sont très mis de l'avant. La défense militaire aussi, on se dit, ben s'il y a encore des attaques du côté des États-Unis, Québec est infiniment mieux défendu avec la citadelle. C'est beaucoup plus solide. On peut se défendre beaucoup plus longtemps. Puis évidemment qu'on ressort le loyalisme, les violons du loyalisme en disant Québec, c'est une ville calme, ville tranquille. On va toujours, il y aura pas d'émeute à Montréal, à Québec, ça sera toujours très très tranquille. Et on se dit bon ben en plus d'avoir un bon document comme ça, puis d'ailleurs le document. Il y a ce personnage-là, ça c'est Monsieur Ulrich Tessier, qu'on va déléguer avec le maire Morin. La population de Québec va demander à Monsieur Tessier, qui avait été maire avant Monsieur Morin, qui était un notable donc francophone, Monsieur Morin qui était un anglophone, et on va leur demander à tous les deux de se rendre à Londres pour défendre la cause de Québec auprès du gouvernement britannique et de Sa Majesté. Et l'autre personnage qui intervient là-dedans, vous le connaissez, c'est François-Xavier Garneau, notre historien, parce que Garneau gagnait sa vie comme secrétaire de la ville de Québec à ce moment-là. Il est greffier, comme on disait, de la ville de Québec. Et c'est à lui qu'on a confié, on lui a fourni tous les arguments, tous les éléments, et c'est à lui qu'on a confié la rédaction, hein, qu'il savait écrire, Monsieur Garneau. Alors, il a fait un bon travail, justement, puis sûrement qu'il a bien développé les aspects historiques qu'il connaissait bien. Alors, il a fait un très bon document qui a été d'abord écrit en français, traduit en anglais, avec beaucoup de soin, semble-t-il, pour être certain là, qu'on faisait quelque chose de bien. Et puis, on a donc envoyé Monsieur Morin et Monsieur Tessier soumettre ce document-là à Londres. Alors, chaque ville comme ça pense que c'est bon jeu, bon argent et qu'on joue bien le jeu, mais en réalité, ce que tout le monde ignore, c'est que les dés sont un peu joués d'avance. Et qui est-ce qui est intervenu là-dedans? On dit des fois que la reine, vous avez peut-être entendu ça, que la reine avait choisi au hasard en mettant son doigt comme ça sur une carte. C'est pas vrai du tout, c'est pas ça qui s'est passé. En fait, il semble que Sa Majesté la reine a bien étudié, paraît-il, a fait son devoir, puis elle a bien lu tous les... son mari, d'ailleurs, qui s'était bien intéressé à la question, le prince Albert, qui vivait toujours à ce moment-là. Et donc, on a bien étudié ça, mais il y a un mémoire qui était tenu secret et qui a pesé très lourd dans la balance. C'est celui du gouverneur qui s'appelait Head, le gouverneur Edmund Head, qui lui, bon, il avait visité toutes les villes, il aimait pas tellement Québec, je sais pas pourquoi, enfin, il avait pas aimé Québec tellement, et il s'était promené, puis lui, il était allé sur le site d'Ottawa, et lui, il trouvait que c'était peut-être le meilleur choix, parce que, d'une part, c'était la mal-aimée de tout le monde, parce qu'il disait, si on donne la palme à Toronto, ou à Québec, ou à Montréal, ça va faire énormément de mécontentement. Mais si on prend le petit dernier, vous savez, la petite ville où personne pense, puis personne veut, ça va finalement renvoyer tout le monde dos à dos. Alors, il y avait cet avantage-là, donc on ferait taire, on mettrait peut-être tout le monde mécontent, mais on ferait pas gagner personne parmi les gros joueurs. Alors, il y avait cet argument-là. Et puis, après avoir vu le site, l'endroit et tout ça, il considérait que, puis c'est tout à fait vrai quand même, il y avait des possibilités, il voyait déjà, lui, c'est la colline parlementaire, là, sur le promontoire, et puis l'embranchement, et surtout, l'aspect symbolique, la capitale serait dans le Haut-Canada, comme ça avait été convenu au début de l'Union, mais quand même sur le bord même, enfin, sur la frontière même du Bas-Canada, donc à la frontière des deux entités finalement du Canada uni. Et c'est donc Ed, puis avec aussi la bénédiction sans doute là, de McDonald et de Cartier, qui ont dû dire, bon, ben écoutez, si vous pensez que c'est ça, allez-y. Alors donc, c'est ce mémoire-là qui ne sera jamais rendu public, sauf longtemps après, bien sûr, qui a été publié, mais qui à l'époque n'a été su de personne, qui va être aussi soumis à la reine et qui a probablement énormément influencé, parce que bon, au départ, c'était pas non plus Ottawa qui aurait pu être choisi. Alors, à la surprise générale, fin 57, la décision est prise en octobre, si je me souviens bien, on va donc décider que ça sera Bytown, ça s'appelait plus Bytown déjà, c'était en 1855, je pense que le nom a été changé, c'est la ville d'Ottawa qui va devenir. Ottawa, 5-6 000 habitants à peu près, donc aussi petit que Kingston quand ça avait été choisi, ça va probablement faire du bruit. Alors, la nouvelle est connue, c'est-à-dire elle est connue par le gouverneur sans doute et par McDonald à l'automne 57, mais on dévoilera pas tout de suite la nouvelle parce qu'on est en pleine période électorale à ce moment-là. En campagne électorale, on se dit, si ça tombe en pleine campagne électorale, ça va être le bordel, excusez-moi l'expression, mais on va encore relancer là-dessus. Alors, si on maintient l'embargo jusqu'après les élections, On va calmer tout le monde. Ça permet à tous les candidats de dire, écoutez, à leurs électeurs, écoutez, on travaille pour la région, on travaille pour notre ville, c'est rendu à Londres, la reine va décider, c'est pas encore décidé, mais en fait, ça permet d'évacuer la question de la campagne électorale. On a bien d'autres sujets à discuter à ce moment-là. Donc, on va aller, on s'en remet comme ça à l'avenir. Mais on sait très bien, dès l'automne, dès octobre, que c'est Ottawa qui est choisi. La nouvelle va être rendue officielle à la toute fin décembre. Je crois que les télégrammes arrivent début janvier. Donc, c'est en janvier 58, il y a 150 ans exactement, là, ces jours-ci, que la nouvelle tombe et que là, on commence à discuter. Au début, c'est un petit peu le souffle coupé. En fait, tout le monde se dit, sauf les gens d'Ottawa, évidemment, qui sont bien contents, qui s'y attendaient pas vraiment de gagner et qui gagnent le morceau comme ça. Mais de l'autre côté, toutes les autres villes se disent, ben, est-ce que c'est vraiment, premièrement, est-ce que c'est exécutoire? Est-ce que c'est une recommandation royale? Autrement dit, la reine dit, bon, ben, ça pourrait peut-être être Ottawa. Bon, et que c'est encore, finalement, au gouvernement et au Parlement du Canada uni de décider si oui ou non ce sera Ottawa, ou bien si c'est exécutoire, est-ce qu'il faut vraiment se plier? Alors, autrement dit, quand on voit dans nos chronologies 1857, choix d'Ottawa, ça nous semble définitif, mais à l'époque, toutes les villes perdantes, et puis je vous ai pas dit, mais il y avait Hamilton aussi, hein, Kingston, Toronto, Montréal, Québec, et Hamilton s'était mis sur les rangs, bon, on sera pas choisi non plus, et Ottawa. C'était quand même pas mal de villes concurrentes, hein, qui se disputaient. Alors, tous ces gens-là sont déçus, et puis leurs supporters, je dirais leur région, leur grande région qui les soutenait, sont tous déçus de cette décision-là. Donc, le gouvernement qui s'attendait à ce que ce soit réglé, hein, comme on disait autrefois, Rome a parlé quand il s'agissait de questions religieuses, là, c'est Londres avait parlé, donc, tout le monde devait se taire, ben non, on sait pas. Et à la session de 58, la session qui va suivre la décision, le débat va reprendre et de plus belle. Cette session de 58, là, c'est vraiment peut-être une des, je dirais, la plus véhémente sur la question de la capitale. Les débats absolument interminables sur la question. Puis, en fait, McDonald et Cartier, ils se regardent, ils se jettent probablement un petit coup d'œil de temps en temps l'un à l'autre en se disant, de toute façon, on laisse aller la machine parce que ça va être comme les sessions antérieures. Comme personne se met d'accord pour concéder à une ville ou à l'autre la palme d'une majorité parlementaire, ça va encore être comme les années passées, c'est-à-dire que tout le monde va s'annuler. Hein, quand on prend le vote, ben c'est toujours toutes les villes finalement, une après l'autre, sont toujours finalement battues. Ça va encore se tourner, comme disent les Français, en pipi de chat. Là, ça va encore tourner à rien. Donc laissons aller la machine, puis de guerre lasse, on dira au bout du compte, ben regardez, c'est encore le choix de la reine qui est encore le meilleur, et puis on va se rabattre sur celui-là. Mais il y a un député un peu futé qui, à un moment donné, s'est levé et a fait une proposition simplement contre Ottawa, c'est-à-dire en simplement proposant que Ottawa ne doit pas être choisi comme la capitale de l'Union, sans rien dire, ben, à la place, faudrait aller à telle autre ville. Simplement dire, ce sera pas Ottawa. Et c'est 70 contre 30, je pense, quelque chose comme ça pour le vote. Alors, forte majorité contre Ottawa. Alors, la décision, évidemment, est embêtante. Qu'est-ce qu'on fait? Puis tout ça. Et s'ils ont réussi comme ça, si l'opposition a réussi à faire une coalition contre le gouvernement, parce que le gouvernement avait mis son poids pour essayer de garder quand même toujours une majorité sur des questions comme celle-là, lorsqu'on se rend compte que on est en minorité, est-ce qu'on démissionne? Est-ce que la question est suffisamment grave pour dire, écoutez, on peut pas donner comme ça un soufflet à la reine en disant, ben on vous a demandé votre avis, puis on n'en tient pas compte et puis on récuse finalement votre choix. C'était très embêtant. On fait pas ça à Sa Majesté, évidemment. Alors, le gouvernement est un petit peu embêté, sauf qu'ils se rendent compte que devant eux, comme opposition, ils ont une opposition qui a fait front et qui a même drainé des députés ministériels sur cette question-là. Mais ils se disent, cette opposition-là, si on démissionne et que l'opposition doit former un gouvernement, ils pourront pas tenir longtemps parce que là, ils ont fait un plein avec la question de la capitale, mais ils vont se retrouver avec la même patate chaude que nous, hein, s'ils forment le gouvernement. Et puis, cette coalition-là qui a tenu contre Ottawa, elle va s'éclater très rapidement. Alors, ils décident de faire, je dirais, de tendre un piège du pouvoir à l'opposition. Et à l'opposition, qu'est-ce qu'il y a en face d'eux, les deux chefs d'opposition, parce qu'il y a toujours à deux, hein, c'est Bas-Canada, Haut-Canada. Ben, du côté du Haut-Canada, c'est George Brown, notre fameux George Brown anti-Québec. Et du côté francophone, c'est Antoine-Aimé Dorion, qui est chef des Rouges. Vous savez, les Rouges, c'était les les héritiers des patriotes là, de 1837, en fait, ce qui en restait. C'est l'aile libérale la plus avancée du Parlement de l'époque. Et donc, assez nationaliste, avec un George Brown sur lesquels ils peuvent peut-être s'entendre sur certaines questions sociales, mais certainement pas sur les questions nationales. C'est certain, entre Dorion et Brown, ils pouvaient s'entendre sur certains points, mais pas sur tout. Alors, ils voient bien que cette coalition-là tiendra pas longtemps. Alors, c'est ce qu'ils font. Cartier et McDonald remettent leur démission sur la question de la capitale en disant au gouverneur, demandez à l'opposition si elle est en mesure de former un gouvernement. Sauf que comme on vient d'avoir des élections, il n'est pas question de refaire des élections non plus. Le gouverneur, M. Head, justement, qui avait choisi Ottawa là, en secret, demande à M. Dorion et à M. Brown, est-ce que vous vous sentez capable de former un gouvernement? Mais si oui, tenez compte que moi, je ne vous autoriserai pas à retourner en élection là-dessus. Parce qu'on vient à peine de faire des élections. Donc, si vous pensez que vous êtes capable, et ils décident d'eux autres, ils tombent dans le piège, je dirais, ils se donnent la main, puis ils décident de former un gouvernement. Et la première chose qu'ils font, évidemment, ils demandent l'ajournement pour pouvoir procéder à la formation du gouvernement et tout ça, mais à la séance même où le gouvernement a été formé, il y a une mise en échec, c'est-à-dire qu'on demande une motion de confiance au gouvernement et cette motion-là est battue. Alors ce gouvernement-là, c'est un gouvernement mort-né, il a été formé une journée puis il a été battu le lendemain. C'est le plus court gouvernement de toute l'histoire parlementaire du Canada, là, ça a été à peine 48 heures, ce gouvernement Brown-Dorion, là, ils n'ont pas eu le temps de faire leurs mesures, ils ont été tout de suite décapité, je dirais. Et grâce à ça, M. McDonald, des quartiers ont donc été rappelés au pouvoir, hein, ont reformé un gouvernement et du coup, s'en sont très bien tirés parce que là, ils avaient une opposition devant eux qui était complètement décapitée et qui a accepté finalement que ce soit Ottawa. Donc, à la fin de 58, on se retrouve avec une capitale dont personne voulait, mais que le gouvernement a finalement imposé par défaut parce que on s'entendait sur aucune autre ville qui pouvait être choisie. Alors, il va y avoir donc une décision parce que là, il faut quand même savoir est-ce qu'on continue à se promener en attendant que le Parlement, parce que là, il faut construire un Parlement. Il n'y a rien à Ottawa. Là, c'est vraiment un petit... il s'agit même pas d'essayer de trouver un hôpital général, même peut-être capable d'accueillir les députés. Alors donc, il faut d'abord construire et tout ça. Donc, ça va prendre quelques années. Et comme on sait que Québec avait peut-être objectivement un dossier très convenable quand même, puis c'est vrai qu'avait des raisons de prétendre au statut de capitale. On décide donc majoritairement que, peut-être en prix de consolation, à partir de 59, on va continuer l'alternance, mais on va rester à Québec tant que les bâtiments d'Ottawa ne seront pas terminés de construire. Donc, Ottawa est la capitale, mais en attendant la construction du Parlement d'Ottawa, on va donc retourner siéger à Québec jusqu'à la fin. Mais vous vous souvenez que le Parlement avait brûlé à Québec, donc il faut quand même trouver un endroit. Puis là, pour 4 ans, on est quand même obligé de se trouver quelque chose d'au point de construire quelque chose. Alors, sur le même emplacement du parc Montmorency, on va raser les anciennes ruines, ce qui restait du Parlement, et on va construire ce bâtiment-là assez quelconque. Mais en fait, on se disait, comme c'est temporaire, lorsque la capitale sera définitivement installée à Ottawa, ce bâtiment-là sera transformé en bureau de poste. Il le sera jamais finalement, mais on s'est dit bon ben il sera recyclé. Donc c'était d'abord construit en fonction d'être un bureau de poste, mais de façon transitoire pour être un parlement. Le bel étage que vous voyez avec les fenêtres arquées, c'était donc les deux chambres qui se trouvaient à chaque extrémité de cet étage-là. Et si jamais je ne l'ai pas illustré malheureusement, mais vous vous souvenez peut-être du tableau célèbre des pères de la Confédération en conférence à Québec. Ben la conférence de Québec de 1864 sur la Confédération a eu lieu dans cet édifice-là, et le peintre, qui s'appelait Harris, je crois, avait reproduit justement ces fenêtres cet édifice du Parlement de Québec, qui a été construit rapidement, en quelques mois d'ailleurs, mal construit d'ailleurs, un édifice en briques, qui, en fait, comparé au bel édifice que je vous ai montré tout à l'heure quand même, payait moins de mine. La question, donc, c'est pour les gens de Québec, c'est encore quelque chose d'assez dur à avaler parce qu'on avait cru pendant un moment avec tous les efforts qui avaient été faits avec la délégation du maire Morin et tout ça, on croyait qu'on allait réussir à imposer Québec. Alors, c'est pas le cas, mais avec la question de la Confédération, de la fameuse conférence de Québec, on espère que Québec est peut-être pas perdu tout, parce qu'on se dit, ben, il va bien falloir qu'il y ait une capitale fédérale, puisqu'on parle d'une union fédérale à partir de 64, 63, 64, et peut-être que Québec pourrait reprétendre encore au statut de capitale, mais de capitale du Dominion, comme on appelait au début, hein, la Confédération, et à cause de sa centralité, à cause de tous ses qualités défensives et tout, donc on essaie de remousser encore la question de... Et lorsqu'on va décider, vous savez que dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique, il y a trois villes qui sont désignées pour être désignées vraiment comme capitale. Ottawa est reconnue de façon encore là permanente comme capitale fédérale, donc du Dominion qui doit naître en 1867. Et Toronto et Québec sont renommés pour être redésignés comme capitale de la province désormais de l'Ontario et du Québec, étant donné que ces villes-là n'avaient pas de statut, en fait, reconnu de capitale. Elles l'avaient perdu hein, en 1840 et puis l'avaient retrouvé de façon temporaire pendant l'Union. Alors là, il fallait... Donc, ces trois villes-là sont désignées. C'est les seules villes qui sont désignées comme étant des capitales dans la loi de 1867, puisque la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick avaient déjà leur capitale et puis on remettait pas ça en question de ce côté-là. Donc, on va relancer cette question-là. Et Québec voit le retour de son statut de capitale, peut-être pas avec grande joie, parce que l'idée d'avoir perdu le statut de capitale de l'Union et d'avoir perdu le statut de capitale qu'on avait espéré un moment de capitale fédérale, ben ça venait encore réduire. En fait, c'était encore une déception très amère pour ces gens-là qui y avaient cru vraiment de façon très très grande. La création, vous savez, depuis longtemps, Québec depuis 1608 avait été la capitale et l'avait donc perdu un peu pendant au moment de la conquête. On oublie ça aussi que Québec, pendant 1759, la capitale de la Nouvelle-France a été Montréal aussi pendant un très bref moment, mais pendant un an, les Anglais ayant occupé Québec. Alors donc, on avait perdu cet aspect-là de la capitale. On l'avait retrouvé, on l'avait perdu à nouveau. On avait espéré le reconquérir, puis là, on l'avait encore une fois perdu. Alors, on s'est rabattu finalement comme un pis-aller sur d'être la capitale provinciale, mais on voyait ça pendant les élites, les notables de Québec voyaient ça à l'époque comme presque un pis-aller, comme une espèce de prix de consolation. Alors, tranquillement, on s'est consolé de ça. On a consolidé l'idée que Québec était une capitale provinciale, mais aussi la capitale symbolique, non seulement du Québec, mais de tout le Canada français, hein, de toute l'Amérique française même. Alors, on a rebâti un peu cette idée-là. On a gardé aussi cet aspect, je dirais, un peu traditionnaliste autour de Québec. Les institutions politiques du Québec sont restées pendant très longtemps figées dans cette espèce de vision dont je vous parlais au début, vous savez, de loyalisme d'une part et de survivance française d'autre part. Alors, on a maintenu Québec dans cette espèce d'ambiance-là pendant très, très longtemps et il faut attendre un peu la Révolution tranquille pour voir l'éclatement de cette espèce de modèle, de paradigme-là qui s'est imposé pendant très longtemps. Et à mon avis, ce qui fait un petit peu la rupture de ça, c'est, vous avez peut-être souvenir de ça, le fameux samedi de la matraque, lorsqu'en 1964, la reine Élisabeth est venue à Québec pour commémorer justement le centenaire de la conférence qui avait préludé à la Confédération. Elle avait été reçue d'abord avec... il y avait très peu de monde. Il y avait plus de forces de sécurité qu'il y avait de gens pour l'acclamer. Là. Et elle était arrivée d'ailleurs à l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative à l'époque, avec presque personne pour l'accompagner. Et ça me rappelait la phrase de Mirabeau qui disait « Le silence des peuples est la leçon des rois ». Je pense qu'elle a peut-être compris la chose à ce moment-là. Et dans la soirée, vous savez, ça a mal tourné. Il y a eu du grabuge à ce moment-là, qu'il y a eu les fameux coups de matraque là, qui ont été distribués assez généreusement. Alors, il y a eu dans Québec, qui est en train de vivre comme capitale aussi, sa révolution de laboratoire de la Révolution tranquille des années 60, un espèce de passage à ce moment-là qui amorce ce changement de mentalité aussi à Québec dans les institutions. Il y a eu une modernisation des institutions à partir de là. Le passage, je dirais, l'abolition du Conseil législatif, le passage d'Assemblée législative à Assemblée nationale dans les années 60, tout cette modernisation, cette simplification aussi des rituels parlementaires, simplification du rôle du lieutenant-gouverneur, toute cette modernité qui a passé à travers les institutions, à mon avis, elle témoigne d'un changement de mentalité qui remontait en fait à l'époque de la bataille de l'Union pour la capitale et qui se traduisait finalement au passage de ce qu'on pourrait appeler le mythe de la vieille capitale loyale et de survivance à la capitale moderne d'un État national. Alors, je vous remercie de votre attention. Puis, je pense que si vous avez des questions, ben, ça serait le temps. J'ai peut-être dépassé un petit peu mon temps, mais enfin, allez-y quand même si vous avez des questions sur les choses que j'ai dû rapidement là passer en revue. Merci. Vous avez ici Québec, c'est une gravure d'à peu près l'époque de la Confédération, à peu près aussi, donc autour de 1867. Et puis j'avais une dernière qui était le Québec, enfin l'aspect un petit peu plus moderne de Québec d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques questions? Tout va bien? Étais-je aussi clair? Non, en fait, c'est un épisode peut-être qui est pas aussi documenté, ou en fait peut-être qu'il l'était pas autant, et je pense, en tout cas, j'ai fait un périple en refaisant cette historique-là, qui m'a permis en tout cas de décoder certains aspects de l'histoire de Québec que moi-même je connaissais mal, et j'ai peut-être sur certains aspects, en tout cas, on a compris que il y a eu cet épisode sur 125 ans à peu près là. Quand on pense, par exemple, aux visites au royal en 1860, je voulais pas mentionner, mais le prince de Galles, le futur Édouard VII, fait la première visite. Ouais, il vient d'ailleurs inaugurer le pont Victoria à Montréal, mais il s'arrête à Québec. Et à Québec, à ce moment-là, c'est le centenaire de la conquête. Alors on va donc l'accueillir avec, mon Dieu, c'est une apothéose, en fait. Puis surtout qu'il était jeune, il paraissait bien, il avait 20 ans. Il était encore regardable à ce moment-là, parce que disons que c'est un petit peu dégradé avec les années. Mais enfin, l'âge, enfin, j'ai pas de leçon à donner. Et puis, mais le prince de Galles, il était brillant à ce moment-là, et il a fait vraiment un énorme succès, là, son passage à Québec, et dans tout le Canada d'ailleurs, a été extrêmement bien accueilli. Et à Québec, évidemment, on lui montre les lieux, hein, le débarquement de Wolfe, on l'amène un peu partout, on l'amène voir le site des Plaines d'Abraham, parce qu'on veut insister à Québec pour montrer justement cet aspect de Québec loyal, Québec clé de voûte, Québec le Gibraltar, on disait aussi le Gibraltar d'Amérique, hein, parce que Gibraltar, pour les Anglais, ça signifiait quelque chose. Gibraltar, c'est la porte de la Méditerranée, hein, qui contrôle Gibraltar, contrôle un peu, en tout cas, la navigation sur la Méditerranée. Alors, on disait, ben, Québec, c'est la même chose pour l'Amérique. Alors, on voulait vraiment valoriser le rôle de Québec comme possession britannique. Oui, Lise.
Est-ce que cette mentalité de Québec que vous venez d'évoquer, très loyale et tout ça, je ne voudrais pas faire de procès d'intention, ni vous obliger à vous compromettre, mais on ne pourrait pas dire qu'il y en a encore un relan de ça quand on voit l'invitation qu'on voulait faire à la reine.
Absolument.
Pour le 400e et d'autres manifestations de Québec.
Ah oui. Vous savez, les révolutions, ça se fait des fois par à-coup et parfois sur de longues durées. Nous, on est plutôt spécialisés sur la longue durée. Mais c'est tout à fait vrai qu'on peut voir encore bien des éléments. Et Québec, à certains égards, puis on le mentionne aussi, a été et resté conservatrice à certains bien des égards. Regardez même les résultats des référendums, par exemple. Le Québec a voté presque, enfin, disons presque majoritairement, mais n'a pas suivi l'ensemble des francophones québécois. Mmh. Souvent, a voté non dans les référendums plus que l'ensemble de la population francophone. Et puis même les comportements, on a fait, nous, l'analyse de tous les comportements électoraux du Québec à l'occasion de changements de gouvernement. Puis en général, je pense que seulement qu'il y a deux occasions où Québec a pris le même virage que l'ensemble du Québec. Mais souvent, la région de Québec prend le virage du changement une élection en retard. Par exemple, en 1960, les libéraux font des gains contre l'Union nationale, mais l'Union nationale reste dans le district de Québec, là, disons le grand district de Québec, assez bien établi. Mais en 62, là, c'est le balayage libéral. Voyez-vous, on rejoint l'ensemble de la tendance, je dirais, québécoise. Alors, ça se produit comme ça à certains égards. La même chose en 1936, là, quand l'Union nationale démarre un peu, Québec reste libéral pendant un temps, puis après ça, bascule avec l'élection libérale nationale, qui était très solide à Québec, puis après ça, va devenir unioniste, là, bon, comme tout le reste du Québec. Il y a souvent un décalage. Là, il y a seulement qu'en 76, je crois, où le Québec vote à peu près au même diapason diapason là, que le changement du 15 novembre 1976. Et puis, il y a une autre élection, je me souviens plus laquelle, où il y a eu changement de gouvernement, puis où le Québec est à peu près dans le même diapason que le reste du Québec. Mais souvent, Québec est un petit peu en retard, voyez-vous, sur les changements. Donc, c'est vrai qu'il y a un fond peut-être de prudence, ou peut-être on peut associer ça à bien des égards, mais ça joue. Et l'idée aussi que, et ça jouait à l'époque, de dire Québec est une ville, d'ailleurs, on s'en sert encore de ce slogan-là pour dire, jouer sur le côté touristique de Québec. Québec est une ville un petit peu plus européenne que Montréal ou les autres villes du Québec ou de l'Amérique du Nord. Hein. Le cachet européen de Québec, on vient souvent à ça, l'architecture, les petites rues, etc. Bon, on joue un peu là-dessus. Mais à l'époque, quand on se battait pour la question de la capitale, on disait justement, en s'adressant derrière ça à la Grande-Bretagne, Québec est une ville justement plus européenne que Montréal ou Toronto, qui sont déjà un peu dans l'orbite américaine. Et Québec est une ville européenne justement parce qu'elle est branchée sur l'Europe, elle est plus européenne, elle est plus proche de l'Europe, elle est plus proche donc de l'Empire que des villes comme Toronto ou Montréal qui sont déjà qui gravitent déjà comme des villes nord-américaines. Donc, alors la différence, on jouait pas ça sur le plan touristique à l'époque, mais sur le plan politique pour dire à la Grande-Bretagne, ben regardez comme Québec, c'est votre clé justement, c'est votre poignée qui maintient justement l'Empire britannique. Alors on jouait, c'est les notables francophones autant qu'anglophones qui jouaient cette carte-là.
Si vous permettez, j'aurais une autre question, mais pour le bibliothécaire cette fois-ci. Les vagabondages du Parlement ont été très pénibles pour les bibliothèques. Oui. Je sais que vous avez étudié cette question.
Oui.
En fait, quand la décision est prise de s'installer définitivement à Ottawa, quelle proportion, vous diriez, de ce qui restait là, du fond du départ?
Je pense qu'au départ, on dit parfois même lorsqu'on déménage d'appartement, on dit souvent qu'après deux ou trois déménagements, c'est comme si on avait passé au feu. Là.
Oui. Bon,
alors, dans le cas de, je crois que c'est 7 déménagements au total sous l'union de capitale. Puis en plus, il y a au moins 2 ou 3 incendies. Alors, vous imaginez que du fonds initial, il y a pratiquement rien qui a survécu. Et lorsqu'arrive le choix, donc le déménagement, le dernier déménagement qui se fait en 65, Québec, donc on était là en attendant la construction des bâtiments. Les bâtiments d'Ottawa sont terminés en 65. La dernière session de l'Union, avant la Confédération, a lieu à Ottawa. Hein, alors, on a déménagé automne 65, si je me souviens bien. Et puis, c'est ça, à ce moment-là, la bibliothèque avait été reconstruite depuis le dernier incendie et déménagée. Puis, on déménage pratiquement tout. Sauf à Québec, on garde les documents, je crois, concernant le droit civil, parce qu'on était en train de préparer, de réformer le code civil. Alors donc, les juristes avaient besoin du fonds de droit civil, puis on n'en avait pas besoin à Ottawa, donc on va garder ça à Québec. Et c'est à peu près tout, c'est ce qui va faire le premier noyau de la bibliothèque, qu'on va appeler plus tard Bibliothèque de la législature, là, qui est devenue Bibliothèque de l'Assemblée nationale, mais ça a été le seul noyau. D'ailleurs, lorsque Pamphile Lemay devient le premier bibliothécaire après 1867, son premier rapport était presque misérable. Enfin, il dit, on me demande de diriger une bibliothèque, mais elle n'existe pratiquement pas. Alors, il est obligé de repartir vraiment, de rebâtir à nouveau la bibliothèque. Et comme à Ottawa, bon, il va y avoir aussi des... mais je crois qu'à Ottawa, c'est ça, en 1916, il y a eu un grand incendie, mais la bibliothèque n'a pas été épargnée. Hein. Elle était dans l'octogone, là, et puis on a réussi à la sauver. Donc, peut-être qu'à Ottawa, soit à la Bibliothèque nationale ou au Parlement, ils ont probablement quelques ouvrages qui datent de la fin de l'Union, probablement. Mais à Québec, avec les incendies, surtout qu'il y en a eu un autre à Québec en 1883, le fameux bâtiment là, qui est un petit peu moche, là, que je vous montrais, là, celui-là, il brûle en 1883 et la bibliothèque est encore dedans. Alors, ça y est, là, c'est encore une hécatombe. Alors, il reste pratiquement rien là, de cette... Oui, monsieur, allez-y. Ben, en fait, c'est intéressant de voir ça, que c'est que le fameux discours loyal et de survivance et de loyalisme, en fait, il est emprunté à l'Église. L'Église catholique, dès le moment de la conquête, elle est la première, elle, à prendre tout de suite le cap en disant, on n'emmène pas large devant un conquérant qui est protestant, anglican. En Angleterre, il y avait des lois très anticatholiques hein, qu'on appliquait plus ou moins parce qu'on était plus à l'époque où on se coupait le cou, là, mais quand même, il y avait quand même des lois restrictives contre les catholiques qui normalement devaient s'appliquer dans les colonies. Donc, en 1763, là, quand la conquête devient définitive, Briand, qui va devenir évêque, négocie tout de suite avec Murray l'espace de l'Église catholique. Et sa position est très, très claire. Il faut montrer patte blanche et puis on dit aux conquérants, écoutez, ça vous donne rien de persécuter l'Église parce que vous allez avoir besoin de nous pour maintenir le calme. Vous êtes un pays occupé après tout, alors donc prenez-nous comme alliés. Mais en retour, donnez-nous les libertés religieuses dont on a besoin pour maintenir l'Église. Alors ça va être le dogme qui va être établi par Briand, puis d'ailleurs, il va avoir des dividendes de ça tout de suite parce qu'il va avoir le droit d'aller se faire consacrer évêque. Donc, on va voir restaurer un évêché à Québec parce qu'il n'y avait plus d'évêque. Monseigneur de Pontbriand était décédé en 1760. Donc, il n'y avait plus d'évêque pendant 6 ans. 1766, avec la bénédiction des Anglais, le Monseigneur Briand va pouvoir venir en France pour recevoir l'onction épiscopale et revenir à Québec, non pas comme évêque de Québec, on ne lui reconnaîtra pas le titre, mais comme surintendant de l'Église. Autrement dit, on lui fait un petit espace. Puis tranquillement, l'Église, avec ce discours là très loyal, va s'imposer. Monseigneur Plessis va devenir un apôtre de cette vision-là. Et d'ailleurs, Monseigneur Plessis, justement, il va très bien jouer son rôle dans la capitale, parce que vous savez que c'est le seul évêque qui a eu le titre de parlementaire, parce qu'il va se faire nommer conseiller législatif. C'est le seul qui a eu ce titre-là. Alors, pour avoir accédé à cet honneur-là, il a fallu que lui aussi montre très, très patte blanche. Mais en faisant ça, l'Église gagnait tranquillement la permission d'ouvrir un séminaire à Nicolet, de restaurer le séminaire de Québec, de maintenir, donc, d'avoir un évêque coadjuteur, etc., donc d'assurer la permanence de l'Église. Monseigneur Plessis va même faire reconnaître son titre d'évêque. Alors donc, l'Église gagne comme ça, gagne des galons, puis même contre l'Église officielle, parce que depuis 1793, il y a un évêché anglican aussi à Québec. Et encore là, ça confirme le rôle de capitale. Lorsqu'en 1793, on décide, avec la formation du Haut et du Bas-Canada, qu'il va y avoir un évêché anglican au Canada, parce qu'avant c'était Halifax hein, qui était le premier évêché anglican de l'Amérique du Nord britannique là, qui avait survécu à l'indépendance américaine, l'évêché donc anglican est établi à Québec parce que Québec est la grande capitale, plus que Toronto encore, parce que c'est la capitale militaire de tout l'Empire britannique d'Amérique. Donc c'est Dorchester d'ailleurs qui force un peu la main à Londres pour dire l'évêque anglican, il va être à Québec parce que c'est la capitale. Donc voyez-vous, il y a une espèce de convergence entre les intérêts religieux tant catholiques qu'anglicans pour que la capitale draine aussi le pouvoir religieux autant que politique. Hein? Bon, alors c'est certain que les autorités religieuses tiennent aussi à ce que Québec ait ce statut-là. Quand Québec perd son statut politique en 1840-41, Québec reste une ville importante au plan religieux, puis même se conforte au plan religieux, parce qu'en 1844, vous avez la création de la province ecclésiastique de Québec. Donc, on va avoir des évêchés suffragants. Montréal est déjà établi, mais on va avoir le diocèse de Saint-Boniface. Donc, Québec devient, pour tout le Canada, là, de toute l'Amérique, devient une espèce de tête de pont religieuse pour tout l'ensemble. Donc, le rôle de Québec comme capitale religieuse, il est, même quand la politique s'éloigne, Québec continue à renforcer son plan, au plan religieux, au plan catholique, à tout le moins, un rôle important. Et ça lui joue des tours parce que M. Brown, par exemple, qui était si anti-Québec, là, qui faisait des croisades contre Québec dans le Globe, c'était pour des raisons, bien sûr, culturelles, parce qu'il n'aimait pas tellement les Canadiens français, mais c'était beaucoup, beaucoup, énormément pour des raisons religieuses, parce que ce monsieur-là, il était très anti-catholique. Les clivages religieux, à ce moment-là, sont vraiment très, très violents. Hein? Bon, alors, on se supporte, on vit ensemble, mais c'est vraiment, là... chacun pour soi. Hein? Bon, alors la croisade de Brown, elle se situe beaucoup quand si vous relevez les articles du Globe à cette époque-là, c'est Québec ville papiste. Hein? C'est comme ça qu'on la désigne. Alors est-ce qu'on va aller siéger dans une ville papiste? Hein? Bon, alors c'est un des arguments forts qu'on souligne là-dessus. Alors il est certain aussi que lorsque Québec va redevenir la capitale et capitale du Canada français et qu'au fond les élites politiques vont récupérer le discours de l'Église, vont l'appliquer à la politique, je dirais, civile. ville pour prendre exactement la même stratégie en disant, bon, les patriotes, ils ont voulu réclamer, ils ont voulu revendiquer, puis voyez-vous, ils se sont fait décapiter ou exiler. Alors, la seule façon de survivre, ça va être d'être conservateur, de demander juste un petit peu, là, le moins possible, puis de se faire un petit espace, puis de faire comme l'Église a fait, de gagner point par point, petit pas par petit pas, et de finir par se faire un espace dit de survivance, là. Alors, ça a été vraiment la trame de fond, je dirais, la vulgate, là, de politique aussi, autant que religieuse, de dire, bon, ben, soyons loyaux envers la Grande-Bretagne, réclamons uniquement ce qu'il nous faut, puis essayons de faire notre espace politique et religieux à travers ça. Et puis Québec devenant, bon, le Canada français étant très associé, vous savez, la langue et la foi, c'est devenu les deux poutres maîtresses quasiment du discours nationaliste canadien-français pendant très, très longtemps. Ben, c'est certain que Québec était autant, quand il y a eu les cardinaux, cardinal Taschereau, cardinal Villeneuve, et bon, cardinal Bégin à Québec, c'était des grandes figures presque autant politiques que religieuses. Hein. Ils pouvaient dicter, faire presque... avoir leur mot à dire presque dans la formation des cabinets à Québec. Là. Hein, d'ailleurs, je me suis toujours demandé à partir de quelle époque, moi j'ai l'impression que c'est jusqu'à Duplessis, que lorsqu'il y avait des rencontres à Québec entre l'archevêque et le cardinal et le premier ministre, qui se déplaçait pour aller voir qui? Hein, avant l'époque du téléphone, là, je pense que pendant longtemps, par exemple à l'époque du cardinal Taschereau, moi je suis sûr que c'est le premier ministre qui allait voir, qui allait au palais épiscopal, tu vois, rencontrer l'archevêque. Je pense que ça a dû être comme ça avec Bégin aussi, probablement que Monsieur Taschereau, Monsieur Gouin allait voir l'archevêque chez lui. Et non pas le contraire. Aujourd'hui, je pense que le Monseigneur Ouellette, là, malgré tout, il doit demander sa rencontre avec M. Charest, là, comme les autres. Alors, il y a eu vraiment un renversement là-dessus aussi. Voilà. Pas d'autres questions, ça va? C'est beau? Bon, mais merci encore. Merci. Alors... je vous invite à lire les cahiers des 10 dans un mois et puis les 4 siècles de l'histoire de la capitale dans 2 mois. Merci. Je vais laisser...